Chapitre 51. Solman trouva Ismaïl à côté du dispensaire, qui, grâce aux bons soins du vieil homme et grâce aux dons de Glenn, se vidait peu à peu de ses pensionnaires malgré la pénurie de plantes séchées. « On ne te voit plus guère ces jours-ci, Solman. Pas plus que Khadija. » Les yeux pétillants de malice d'Ismaïl étaient les dernières traces de jeunesse dans un corps rattrapé par les années. La prévention génétique, qui lui avait permis d'approcher les 200 ans, semblait avoir cessé son effet. Ses rides se creusaient, des taches brunes fleurissaient sur son crâne nu, ses épaules se tassaient, son dos s'arrondissait, sa démarche perdait de sa vigueur, de son assurance. Sa voix elle-même s'enrouait.
« J'étais occupé à lire, » dit Solman.
« Lire ?» s'étonna le vieil homme.
« Je croyais que les peuples nomades ne connaissaient plus que la tradition orale. »«
Les pères et mères du peuple m'ont appris à lire autrefois. Mère Joynière surtout. Elle aimait les livres.
Elle en possédait quelques-uns qu'elle gardait comme les plus précieux des trésors. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il m'a fallu du temps pour réapprendre à déchiffrer les mots. »
Un vent d'euphorie soufflait sur le campement depuis 2 jours. Aura avait trouvé une réserve d'eau potable, immense selon les dires de Moram, plus fière encore que la jeune sourcière. Il avait demandé au chauffeur, puisque les moteurs n'étaient pas encore prêts à rouler à l'essence, de transférer dans un seul camion les dernières gouttes de gaz des réservoirs qui n'étaient pas encore démontés. Puis il avait organisé une expédition afin de remplir une citerne. 4 hommes l'avaient accompagné, armés jusqu'aux dents, ainsi qu'une 10aine de chiens. Des clameurs avaient salué son retour. Mère Nature n'avait pas abandonné ses derniers enfants. L'eau, le principe de toute vie, leur était donné. On avait célébré l'événement par un banquet improvisé. On avait dressé au centre de l'excavation qui jouxtait l'entrée du bunker une broche sur laquelle on avait grillé des quartiers de bœuf. On avait vidé les dernières bouteilles de vin aigre troquées 2 ans plus tôt avec un peuple méditerranéen. On avait dansé et chanté une grande partie du jour et de la nuit. Ni le donneur, ni Khadija, qu'on surnommait désormais la fée, n'avaient pris part aux réjouissances. Le bruit s'était répandu que le boiteux n'osait plus paraître en public parce qu'il avait perdu son don, que la fée s'était retirée dans son royaume après avoir exaucé les vœux du peuple de l'eau. Quelques langues perfides avaient insinué que le boiteux et la fée, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais d'autres avaient rétorqué que les fées n'étaient pas vraiment des femmes, pas davantage que le boiteux n'avait vraiment, avec Raïma, qu'il n'était pas vraiment non plus, vous me comprenez, n'est-ce pas? Seul Moram et Wolf savaient que Solman avait passé 3 jours et 3 nuits entières sans manger ni boire, dans une remorque vide, avec, pour toute compagnie, le livre interdit de Raïma, une lampe de poche, un matelas et une couverture de laine. Il leur avait demandé de n'être dérangé sous aucun prétexte. Quant à Khadija, elle s'était éclipsée avec la même discrétion que dans les grottes du labyrinthe souterrain. Les vents chauds continuaient de souffler. Les températures grimpaient à une allure vertigineuse, et la neige commençait à fondre. Les aquariotes estimaient que Mère Nature, généreuse, leur avait également envoyé un printemps précoce.
« Qu'est-ce que tu lis ?» demanda Ismaïl.
Solman sortit le livre de Raïma de la poche de sa canadienne et le tendit à son interlocuteur. Après avoir observé la couverture de briques et de broc, Ismaïl l'ouvrit et le feuilleta avec délicatesse.
« Le Nouveau Testament, » murmura-t-il. « Le livre des chrétiens. » L'éthique nomade avait interdit la pratique des anciennes religions.
Raïma, elle, pensait que le livre apportait des réponses, surtout dans la dernière partie, l'Apocalypse de Saint Jean.
L'Apocalypse. Elle a suscité bien des commentaires, bien des interprétations, même à mon époque. Surtout à mon époque. On ne compte plus les voyants sincères ou charlatans, qui se sont inspirés de ce texte pour prédire la fin du monde. Pourquoi t'y intéresses-tu ?
J'ai ressenti le besoin de m'y plonger après la mort de Raïma.
Les yeux de Solman s'embuèrent. Il avait pris conscience, après avoir brûlé le corps de la guérisseuse, qu'elle avait laissé un vide immense. Il n'avait pas su combler le fossé qui les avait séparés du temps où elle vivait. Il lui serait encore plus difficile de jeter un pont entre le monde d'en bas et le monde des morts. Il m'a semblé l'entendre me parler, me supplier de lire le livre, reprit-il d'une voix hésitante. Ce n'était pas un rêve, ni une vision, juste une présence, un chuchotement.
Et Khadija, tu as une idée de l'endroit où elle se cache ?
Solman secoua la tête.
Non, mais je sais qu'elle se manifestera au moment où je serai prêt.
Prêt à quoi ?
Je l'ignore. Elle a besoin de moi autant que les derniers hommes ont besoin d'elle. Je voulais aussi comprendre la relation entre le livre et son monde.
Il y en a une ?
J'en suis maintenant persuadé.
Ismaïl s'absorba de nouveau dans la lecture de quelques passages. Les gémissements qui montaient du dispensaire de toile se jetaient comme d'infimes ruisseaux sonores dans la rumeur du campement. La lumière du jour, s'engouffrant par les ouvertures, perdait de son éclat dans cette salle, la cinquième du premier niveau, l'une des plus vastes. Le suc des plantes grimpantes luisait sur les murs avec l'intensité sournoise d'un prédateur aux aguets. Quelques chelnes, qu'on ne reconnaissait plus qu'à leur français maladroit et à leur accent guttural, se mêlaient aux lavandiers des deux sexes qui étendaient du linge sur les fils tendus entre les voitures.
« La vision ne te suffit donc pas ?» demanda Ismaïl.
« La vision m'a abandonné ces jours-ci. »
De toute façon, Khadija n'a de l'humanité qu'une image tronquée. Je dois parcourir mon propre chemin pour mieux la comprendre, pour également l'aider à mieux nous comprendre.
Et lui prouver que l'humanité est digne d'être sauvée.
Solman ne répondit pas. L'humanité avait commis tant d'erreurs dans le passé qu'elle avait sans doute mérité d'être chassée de sa terre. Mais il doutait que ceux qui étaient appelés à lui succéder, les saints, soient vraiment ces fruits de l'évolution supérieure dont parlait Khadija.
Avez-vous entendu parler de l'escato ?
Ismaïl fronça les sourcils, referma le livre et garda les yeux rivés sur la couverture d'un air hagard. Solman eut l'impression qu'il plongeait en chute libre dans un passé très lointain et qu'il en éprouvait le vertige.
« L'escato, »
dit le vieil homme d'une voix éteinte.
« Mon Dieu, où as-tu déniché ce nom ?»«
Dans l'esprit de Khadija ?» Ismaïl lui rendit le livre et se dirigea vers l'entrée du dispensaire.
« Donne-moi le temps de prendre une veste. Et aussi de quoi manger, tu es plus maigre qu'un chat sauvage. Nous serons mieux dehors pour discuter. »
Le climat semblait s'être métamorphosé d'un coup de baguette magique. La baguette de Hora ? Le changement était intervenu après qu'elle avait trouvé de l'eau. La neige fondait à une vitesse étonnante, et déjà des personnages avaient éclos, des bandes de terre brune et grasse, des plaques de béton fissurées, des branches d'arbres pourries se dévoilaient au milieu des anciennes rues de la ville morte. Seule la glace épaisse emprisonnant la Loire paraissait pour l'instant épargnée par le redoux. Le vent tiède, humide, poussait des troupeaux de nuages gris qui fusaient dans le plus grand désordre au-dessus des collines et des ruines.
« Ce réchauffement climatique m'inquiète, » dit Ismaïl.
« Le printemps est parfois précoce. C'est arrivé d'autrefois, » fit Solman.
« Je n'appellerai pas ça un printemps précoce, mais un dérèglement excessif. Les dinosaures ont été rayés de la surface du globe à l'issue d'un phénomène analogue, à cette différence près qu'il s'agissait d'un brusque refroidissement. Peut-être la Terre prépare-t-elle la revanche des animaux à sang-froid.
Le temps clément qui incitait les aquariotes à quitter l'abri du bunker ne facilitait pas la tâche de surveillance des chiens. Ils ne savaient plus où donner de la tête entre les couples qui partaient en promenade, les chauffeurs qui transportaient les réservoirs pour les purger à l'air libre, les petits groupes qui ramassaient du bois dans les ruines afin d'alimenter les braseros, et les enfants qui, mis en confiance par l'insouciance des adultes, reculaient sans cesse les limites de leur terrain de jeu. L'ange, lui, restait impassible dans un recoin de la première salle. Personne ne l'avait vu manger, boire ou prendre un peu de repos, au point que sans la lumière indéchiffrable qui éclairait ses yeux, il aurait pu passer pour l'un des solbos alignés contre les murs. Les rumeurs allaient bon train sur lui aussi. Elles le dépeignaient tantôt comme un être d'essence surnaturelle, tantôt comme un homme possédé par une force divine ou démoniaque. Certaines en faisaient le frère de Khadija, tant sa ressemblance était frappante avec la fée. Elles traduisaient en tout cas la curiosité, la fascination qu'il exerçait sur les aquariotes.
« Ici, nous serons bien, » dit Ismaïl.
Les trois chiens qui les avaient suivis se couchèrent à quelques pas de la grosse pierre où s'assirent les deux hommes. Ils avaient gravi une colline qui surplombait la Loire, après avoir suivi le tracé maintenant apparent d'une ancienne rue. Ils burent au goulot de la gourde dont s'était muni le vieil homme, puis mangèrent des restes de bœuf grillé et des fruits secs. Le vent les enveloppait comme une haleine chaude et parfumée. Quelques fleurs aux pétales mauves se déployaient entre les stries neigeuses couleur de terre. Les plantes grimpantes, qui assaillaient un amas de carcasses métalliques sur l'autre versant de la colline, émettaient un chuintement continu, menaçant. La flore connaissait un regain d'activité qui, lui non plus, ne paraissait pas normal.
« J'ai effectivement entendu parler de l'escato, » dit Ismaïl après avoir bu une gorgée d'eau. Au début du XXIe siècle, je me trouvais alors à l'observatoire de Kitt Peak, dans une réserve indienne de l'Arizona, l'un des États-Unis d'Amérique. Un soir, un homme est venu frapper à la porte du motel où je résidais. Il était australien et astrophysicien comme moi, et parlait un français impeccable. Je ne l'aimais pas, parce que il avait, vis-à-vis des Indiens de la réserve, une attitude méprisante, presque insultante.
« Les Indiens ?» releva Solman.
« J'aurais dû dire les Natives, ou les Amérindiens. Leur nom vient de l'erreur de Christophe Colomb, l'homme qui a découvert le continent américain. Il a cru qu'il avait touché les Indes en suivant la direction de l'Ouest. Peu importe. Les Indiens étaient répartis en tribus nomades aussi. Ils ont été exterminés par les Européens qui convoitaient leurs terres. Puis les survivants ont été parqués dans des réserves. Un épisode monstrueux dans l'histoire de l'humanité. Tout comme l'esclavage des peuples africains, tout comme l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, tout comme ces massacres à grande échelle qui préludaient à la destruction quasi totale des hommes. Marty Van Eyck, c'était le nom de l'Australien, m'a parlé d'une organisation secrète, de type para-religieux, qui voyait dans la science contemporaine la possibilité d'accomplissement des miracles du Christ.
Il désigna la poche de la Canadienne où Solman avait glissé le livre.
« Nous revoilà avec le Nouveau Testament. Pour lui, la science était la religion du troisième millénaire. Dieu avait donné aux hommes les moyens de réaliser leurs rêves. » Inutile de te dire que je n'étais pas d'accord avec lui.
Le vieil homme leva les yeux au ciel, puis retira sa veste de laine et prit une longue inspiration. Des flaques d'eau scintillaient sur la glace de la Loire, désormais débarrassée de sa couche superficielle de neige.
Il me proposait de rejoindre son mouvement, où selon lui s'étaient engagés déjà un grand nombre de scientifiques de haut niveau, un grand nombre de politiciens, un grand nombre d'hommes et de femmes dont le point commun était d'appartenir à l'élite intellectuelle, culturelle ou financière, un cercle très fermé qui prenait racine dans les multiples organisations élitistes ou pseudo-élitistes qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Je lui ai posé quelques questions auxquelles il ne m'a pas vraiment répondu, mais j'ai mené ma petite enquête par la suite. Et j'ai appris que son mouvement était né au début de l'ère industrielle, à la fin du XIXe siècle, en Europe occidentale. Un premier embryon regroupant industriels et scientifiques qui, j'en suis persuadé, se croyaient éclairés, pensaient réellement agir pour le bien commun. Ils se sont violemment opposés au communisme mis en place par la Révolution russe. La doctrine du tout collectif leur paraissait dangereuse. Elle remettait en cause le principe des élites, du moins dans ses idéaux, car par la suite, le communisme n'a fait qu'engendrer un nouvel élitisme aussi aberrant et meurtrier que les autres. Ils ont donc œuvré dans l'ombre pour la déclaration de la Première Guerre mondiale, en 1914. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'ils ont eux-mêmes commandité l'assassinat de Jaurès ou celui de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, mais je crois qu'ils ont eu une influence décisive dans le déclenchement du conflit, d'autant que les intérêts économiques étaient considérables.
Du regard, Ismaïl s'assura que Solman ne manifestait pas de signes d'incompréhension ou d'impatience. Toutes ces notions étaient évidentes pour lui, qui, né en 1985, avait baigné dans l'histoire de son siècle. Mais elle ne recouvrait aucune réalité concrète pour les nomades, livrés à eux-mêmes sur des territoires rasés, incendiés, pollués. Les bombes à effet successif de la Troisième Guerre mondiale n'avaient laissé aucune archive, aucun vestige de l'ancien temps, qu'une poignée de ruines. Le donneur à Quariote l'écoutait avec une attention soutenue. Les paupières mi-closes, comme s'il cherchait à s'imprégner de ses paroles, à les relier à ses propres perceptions, aux événements récents, aux écrits du Nouveau Testament.
Le cercle s'est agrandi à la fin de la Première Guerre mondiale, reprit Ismaïl. Une époque florissante pour la science. La théorie de la relativité avait fait son apparition, on avait jeté les bases de la physique quantique. On commençait à retracer la cosmogonie de l'univers, à développer l'aéronautique, bref, on assistait à une véritable explosion de la connaissance. C'est à cette période que le cercle conçut l'idée d'un vaste projet visant à utiliser tous les ressorts de la science pour développer son concept d'élite. Je ne pense pas qu'il soit directement responsable de l'émergence de Hitler et des idéologues nazis, des hommes d'Autriche et d'Allemagne qui se prétendaient issus d'une race supérieure, mais je reste convaincu qu'il a tissé des relations privilégiées avec eux, qu'il a en partie financé le parti nazi et aidé Hitler à conquérir le pouvoir en Allemagne. Et il a utilisé la Deuxième Guerre mondiale comme champ d'expérience pour son projet. Il s'agissait d'observer comment on pouvait exterminer un ou deux peuples à l'échelle industrielle. Les nazis ont créé de gigantesques mouroirs, des camps de concentration où on utilisait les chambres à gaz pour éliminer systématiquement les peuples juifs et tziganes, ainsi que les opposants politiques, les homosexuels et les résistants. Les juifs pour des raisons autant idéologiques que financières. Les chrétiens les accusaient depuis toujours d'avoir crucifié leur prophète Jésus-Christ, et ils détenaient une partie non négligeable des richesses. Je me suis toujours demandé, dans le fond, si les nazis n'avaient pas cherché à démontrer que deux peuples élus ne pouvaient pas coexister sur cette terre. Quant aux tziganes, les derniers nomades d'Europe, ils faisaient peut-être souffler un vent de liberté insupportable dans un monde qui se couvrait de clôtures, de barricades, de miradors, de frontières. Ensuite, j'ai perdu les traces du cercle, comme s'il s'était évanoui dans la nature. Ses membres l'avaient-ils dissous pour ne pas être impliqués dans les procès qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale? La proposition de Marty Van Eyck, près de 80 ans après l'année 1945, montrait qu'il n'en était rien. Le cercle avait continué ses activités, mais les avait entourées du secret absolu. J'aurais sans doute dû feindre d'accepter pour le découvrir de l'intérieur et alerter l'opinion internationale, mais j'étais de nature impulsive. Et lorsqu'il a évoqué ce projet insensé, je n'ai pas pu maîtriser ma colère. Je lui ai balancé mon poing dans la figure. Il s'est retiré après m'avoir menacé de mort. Je me suis alors terré dans le sud de la France, assez lâchement, je dois dire. J'ai pris peur après avoir mené mon enquête et je me suis réfugié dans l'observation des astres. Jusqu'au jour où j'ai vu se profiler la menace de la Troisième Guerre mondiale et où j'ai décidé, avec quelques amis, de sauvegarder une partie du patrimoine scientifique de l'humanité.
« Quel rapport avec l'escato ?» demanda Solman. Ismaïl se leva et fit quelques pas en direction de la Loire. Les nuages lâchèrent des gouttes de pluie épaisses, chaudes. En contrebas, les plantes grimpantes émettaient un grésillement agressif et répandaient une violente odeur d'acide.
« Je ne te l'ai pas dit. Son cercle, son mouvement, s'appelait l'escato. La racine grecque du mot eschatologie, l'étude de la fin des temps.